Salut les rebelles intelligents. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, j'ai eu le plaisir de recevoir par la poste ce magnifique livre, le dernier livre de Tim Ferriss en français, préfacé par votre serviteur, La tribu des mentors. Et donc je le rappelle, le concept de ce livre, c'est que Tim Ferriss a posé des questions pertinentes à des tas de gens qui ont réussi dans leur domaine respectif, des auteurs, entrepreneurs, artistes, scientifiques, que sais-je encore. Et notamment, il y a des questions qui sont posées à Yuval Noah Harari, l'auteur du célèbre best-seller Sapiens, et puis de sa suite Homo Deus. Alors clairement, pour ceux qui ont vu ma chronique vidéo de Sapiens, vous avez pu voir à quel point j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai trouvé extrêmement pertinent, extrêmement intéressant, et ça ouvre vraiment beaucoup d'horizons et de compréhension aussi par rapport à notre propre histoire. J'ai aussi adoré Homo Deus, je vous ferai peut-être une vidéo sur ce livre plus tard. Et ce qui m'a fait beaucoup plaisir dans les réponses de Yuval, c'est qu'il partage exactement le même regard que celui que je porte dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études sur le système éducatif. Il dit notamment « Le modèle éducatif actuel conçu lors de la révolution industrielle du 19e siècle est mort, mais jusqu'à présent, on n'a pas créé d'alternative viable. » Mais surtout, il dit ceci avec lequel je suis également entièrement d'accord. « Il ne vous reste pas d'autre choix que de mieux vous connaître. Sachez ce que vous êtes et ce que vous attendez de la vie. » Cela est évidemment le plus vieux conseil qui existe. Connais-toi toi-même. Mais c'est une urgence au 21e siècle car maintenant, vous avez de la concurrence. Google, Facebook, Amazon et le gouvernement comptent tous sur le big data et l'apprentissage automatique pour vous connaître de mieux en mieux. Ce n'est plus l'ère du piratage informatique, c'est l'ère du piratage humain. Une fois que les corporations et les gouvernements vous connaîtront mieux que vous ne vous connaissez vous-même, ils pourront vous contrôler, vous manipuler à votre insu. Donc pour rester en course, il faut courir plus vite que Google. Bonne chance. Et ça, clairement, c'est un conseil extrêmement pertinent, les rebelles intelligents. Finalement, l'auteur fait exactement le même constat que moi, à savoir que de toute façon, les progrès technologiques s'accélèrent tellement qu'on ne peut prédire à personne quel sera l'état du marché du travail dans 20 ans. Ce qui fait que c'est impossible, en fait, de vraiment donner à l'école des connaissances dont on est sûr qu'elles serviront les enfants quand ils auront atteint l'âge adulte et qu'ils seront sur le marché du travail. Du coup, quelle est la compétence clé à acquérir au 21e siècle pour ne pas se retrouver complètement largué? C'est tout simplement la capacité d'apprendre en permanence, de toujours se remettre en cause. Et là où Yuval a une approche complémentaire de la mienne, c'est qu'il insiste beaucoup sur la nécessité de se connaître soi-même. Et ça, il a tellement raison parce qu'aujourd'hui, comme il le dit, les sociétés vous connaissent de mieux en mieux. Facebook, YouTube, Instagram et toutes ces startups analysent très précisément vos comportements. Alors quand je dis vous, je ne vais pas dire qu'ils sont en train de vous espionner. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont en train de faire des tests scientifiques sur leur interface pour voir quels sont les éléments qui incitent les gens à rester le plus longtemps, à cliquer, à interagir. Ce qui fait en gros que ces sociétés sont en train de découvrir les mécanismes de l'addiction. Qu'est-ce qui fait que vous allez rester longtemps sur la plateforme, le plus longtemps possible, consommer un maximum de contenu et puis bien sûr cliquer sur un maximum de publicité. Et encore, Facebook, Google, Amazon, ce sont des entreprises relativement jeunes. Il y a une autre industrie qui elle est beaucoup plus mature et qui a tout à fait compris comment faire pour rendre ses utilisateurs addicts. Je parle bien sûr de l'industrie de la drogue. Non, bien sûr, je parle de l'industrie des jeux vidéo. Quand vous comparez les premiers jeux vidéo vers la fin des années 70 et puis ceux d'aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de différences. Déjà, la plupart des jeux de la fin des années 70, début des années 80 sont aujourd'hui complètement dépassés. Non pas, on ne parle pas de graphisme ici, mais vraiment en termes de concept. Il n'y a pas eu de beaucoup de jeux de cette époque-là qui, encore aujourd'hui, a des suites. Mais on voit aussi qu'ils étaient, un, beaucoup plus durs que les jeux d'aujourd'hui et deux, beaucoup moins addictifs. Parce que les concepteurs, à l'époque, ils étaient en terrain inconnu, ils ne savaient pas vraiment ce qui faisait que les gens accrochaient à un jeu ou pas. Aujourd'hui, il y a toute une science derrière ça. Les concepteurs de jeux vidéo, bien sûr, s'y intéressent parce que ce qu'ils veulent, c'est que les gens jouent un maximum à leur jeu, en particulier avec les business models d'aujourd'hui où vous avez des free for play et où les gens vont payer dans le jeu directement des achats supplémentaires et pour ça, bien sûr, pour maximiser les ventes, il faut que les gens jouent un maximum. Donc du coup, une des caractéristiques des jeux modernes, c'est qu'ils sont en général beaucoup plus faciles parce que les développeurs ont remarqué que quand le jeu est trop difficile, il y a trop de joueurs qui s'arrêtent en cours de route. Donc les jeux sont plus faciles pour que les gens puissent continuer à jouer. Alors on essaie de les rendre à la fois faciles et un petit peu infinis dans le sens où on peut les rejouer un maximum de fois. Bien sûr, il y a des tas d'exceptions à ce que je viens de dire, mais c'est quand même une tendance globale qu'on peut remarquer. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, les rebelles intelligents, de ce qu'une industrie peut découvrir sur vous que vous, vous ne connaissez pas. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas conscience de ça et des différentes manières qu'ont ces industries de vous manipuler pour arriver à leur fin, ça peut parfois se faire à votre détriment. Si par exemple, vous prenez un exemple de jeu extrêmement addictif, c'est World of Warcraft, vous avez en fait des tas d'éléments qui sont inclus dans ce jeu et qui sont conçus de base pour vous rendre addict. Peut-être d'ailleurs que ce sera considéré dans plusieurs décennies de la même manière dont on voit les fabricants de tabac aujourd'hui et le fait qu'ils ont mis consciemment des éléments addictifs dans leurs cigarettes pour rendre les gens accro à leurs produits. Dans World of Warcraft, vous avez par exemple des éléments typiques d'un jeu de rôle qui vont faire que vous avez envie de jouer. C'est-à-dire que, en gros, nous, êtres humains, on est complètement câblés pour avoir envie de progresser dans un système, en particulier un système social, où on va avoir des récompenses, où il y a des amis qui vont nous admirer, etc. Donc en plus, bien sûr, il y a la dimension sociale dans un jeu de rôle en ligne comme World of Warcraft. Vous arrivez au premier niveau, vous n'avez rien, vous avez un petit bâton, une petite épée à la noix, vous ne savez rien faire, vous êtes juste démunis, et vous allez monter progressivement comme ça, développer votre personnage qui va vous permettre, à chaque fois que vous allez augmenter de niveau, obtenir un nouvel objet, etc., vous allez avoir le circuit de la dopamine, de la récompense, du plaisir qui active, ça va vous donner un certain statut dans le jeu, un statut social.
Et ça aussi, on est complètement addict à ça.
On va gagner de l'argent, ce qui va nous permettre d'acheter des objets sympathiques qui sont à la fois bons pour notre personnage, mais aussi pour notre statut, etc., etc. Après, est-ce que c'est bon ou mauvais? On peut en débattre, mais sachez simplement que les concepteurs du jeu font ça de manière tout à fait consciente. Ils savent ce qui vous rend addict à un jeu, ils essaient de mettre un maximum en place ce genre de choses pour faire que vous jouiez le plus longtemps possible, que vous en parliez à vos amis, etc., etc. Donc là où je veux en venir, les rebelles intelligents, c'est que si l'industrie du jeu vidéo fait ça, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas que eux qui font ça, que non seulement bien sûr il y a les GAFA qui font ça depuis déjà un moment, mais il y a aussi les gouvernements qui s'intéressent de plus en plus à ça. D'où l'importance, comme le dit l'auteur de Sapiens, de se connaître davantage soi-même. Parce qu'en se connaissant davantage soi-même, on est beaucoup plus résistant aux manipulations. Alors vous allez me dire, génial, mais comment concrètement on se connaît mieux soi-même? Clairement, une des très bonnes premières étapes que je vous recommande, c'est de vous intéresser à ce que la psychologie moderne a découvert sur ce qui nous influence inconsciemment. Et quand je dis psychologie moderne, je parle pas de Freud et tout ça. Là, ça commence déjà à tâter un petit peu et il y a beaucoup de concepts de Freud qui aujourd'hui sont considérés comme obsolètes ou même pas du tout pertinents par la science. Donc, quand je vous dis science moderne, je parle vraiment d'expériences qui ont été réalisées, qui ont permis de prouver l'influence de certains facteurs dans tout un tas de différentes situations. Et clairement, le livre phare pour s'initier à ça, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini, que je vous recommande fortement, qui se lit extrêmement bien et qui va déjà vous donner un aperçu extraordinaire sur tout ce monde-là. Le deuxième livre, c'est Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, qui a été traduit en français par Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. En fait, dans ce livre que je vais vous chroniquer prochainement parce qu'il fait partie de mon défi de 24 livres à lire cette année, l'auteur montre à quel point on a deux systèmes en fait de pensée, celui qui est instinctif où immédiatement on va avoir une opinion qui va se forger. Donc c'est là où on a les stéréotypes, mais aussi où par exemple si je vous dis 2 plus 2, vous savez répondre 4 immédiatement, ça c'est instinctif, ça fait partie du système 1, c'est celui qui a vraiment intégré des connaissances parcellaires et qui est capable de les ressortir vite. Vous avez le système 2 qui lui est davantage notre raison, qui prend beaucoup plus de temps. Si par exemple je vous dis 1263 fois 17, ça fait combien? Le système 1, il ne peut pas répondre. Il va falloir que vous preniez votre crayon ou que vous sortiez votre calculette. Mais si vous devez faire le processus mental vous-même, ça va vous prendre un certain temps pour trouver la réponse. Et l'auteur montre que le système 1 se trompe souvent et facilement. Et aussi que parfois on a l'impression d'être rationnel et d'avoir bien réfléchi à la question et on a loupé un truc évident qui fait qu'en fait on est en train de réfléchir complètement irrationnellement. Et enfin, le troisième livre, c'est un livre de Dan Ariely, Predictably Irrational. Donc en français, ça donnerait quelque chose comme irrationnel de manière prévisible. Mais évidemment, c'est un peu nul comme titre en français, donc du coup, ça a été traduit par « C'est vraiment moi qui décide les raisons cachées de nos choix ». Et là, on a un livre qui est dans la même veine que « Influence et manipulation », où l'auteur partage de nombreuses expériences scientifiques qui ont permis de montrer l'impact de, justement, facteurs complètement irrationnels dans la prise de décision. Et ce qui est d'autant plus intéressant ici, c'est que dans ce livre, eh bien, l'auteur se focalise vraiment sur les business, sur qu'est-ce qui peut faire qu'un business marche ou pas grâce à ces facteurs irrationnels. D'ailleurs, le livre commence par un entrepreneur français qui vit à Tahiti et qui s'est dit « Mais voilà, il y a plein de perles noires en Polynésie française, mais personne n'en veut. Comment je peux faire pour en faire un produit de luxe ?» Et qui, simplement en le mettant à un prix très cher et en faisant en sorte que ça soit rare, a réussi à en faire un produit de luxe alors qu'avant, ça n'avait aucun intérêt pour personne. En lisant ces trois livres, vous allez déjà être très armé, vous allez apprendre sur vous-même des choses que vous n'auriez même pas soupçonnées. Et du coup, ça va vous permettre d'être moins susceptible de tomber dans les manipulations, d'avoir davantage de contrôle sur vous-même parce que vous allez amener à votre conscience des choses qui vous influençaient déjà avant que vous en ayez conscience. Sauf que là, quand elles vont vous influencer, vous allez avoir davantage de chances de vous dire « Ah, j'ai remarqué que ce facteur-là m'influence, est-ce que j'ai envie de le suivre ou pas ?»
Parce que bien sûr, le but, c'est pas de dire que tout ce que font ces sociétés, tout ce que font ces gens qui utilisent ces principes est forcément mauvais, mais simplement de nous donner davantage de liberté de pouvoir répondre de manière plus autonome par rapport à tout ça et faire nos propres choix.
Voilà les rebelles intelligents. Et vous, est-ce que vous connaissez d'autres livres sur le même sujet qui partagent des facteurs qui nous influencent inconsciemment et qui peuvent complètement façonner nos comportements? Si oui, eh bien, partagez-les dans les commentaires. Juste en dessous, ça sera très intéressant d'avoir justement ces ressources que vous pouvez partager. Donc, je vous ai mis un lien vers la fiche Amazon de chacun de ces livres pour que vous puissiez les commander si l'envie vous en prend. Également sur le résumé qui a été publié sur Des livres pour changer de vie, s'il existe.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.